R22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Kiasma.
Le principe, c'est à chaque fois de travailler sur un lieu du monde où j'ai été. Alors, en l'occurrence, celle-ci est la première que j'ai créée. Et après, du coup, j'ai eu envie d'en faire d'autres. Il s'agissait de définir 5 lieux dans le monde qui m'avaient marqué pour des raisons très différentes d'une fois à l'autre. Et puis, en fait, en travaillant avec des graphistes qui ont proposé, à qui j'ai demandé de me faire des cartes qui seraient un peu les chapitres et les impulseurs des performances, puisque l'idée, c'est que moi, je suis auteur de théâtre, mais que là, je voulais ne pas les écrire. Donc, je voulais avoir, évidemment, les travailler. Elles sont préparées, il y a des chapitres, mais elles ne sont pas écrites, c'est à l'oral. En fait, pour raconter celle que vous pouvez prendre en partant, qui s'appelle Fulong, on travaillait sur ces cartes, et l'idée de Fulong, c'est que les graphistes m'ont dit « Tu veux vraiment que Fulong travaille sur l'invisible? On ne va pas faire de cartes. » Je leur ai dit « Dans ce cas-là, je ne vais pas faire de performance. » Et à ce moment-là, j'ai eu une commande de Loïc Touzé, qui est un chorégraphe, pour faire une pièce de danse qui ne serait que lue. Et du coup, ça collait avec l'idée que j'avais d'aura lieu. Donc, ce que vous pouvez lire comme cinquième aura lieu, c'est un mélange entre une commande et l'idée qu'il y avait d'aura lieu. Voilà. Celui-là était le premier. En fait, j'étais invité dans un festival qui s'appelait Festival des écritures du réel. Et il m'avait invité un peu comme ça à faire des expériences. Et puis, en dialoguant, c'était à Brest, en dialoguant avec les gens qui m'invitaient. À l'époque, il n'y avait pas le projet de faire les 5, etc. Il me disait, voilà, les écritures du réel, c'est très important d'être proche des gens, de ce qui arrive. Et petit à petit, je me rendais compte que pour eux, l'écriture du réel était beaucoup liée à des choses assez graves, du social, à des thématiques qui étaient un peu, pour être péjoratif, plombantes. Et moi, je me suis dit, il faut que je propose quelque chose d'une écriture du réel. Qui soit le réel peut être autre chose que plombant. Il y a des manières de décrire le réel. On avait un ami en plus dans le collectif Lumière Doute qui avait trouvé un slogan qui était le réel parce que je le veux bien. Et du coup, on était assez. C'était plutôt l'envie de jouer avec ça. Simplement, du coup, les aura lieu sont partis sur un principe qui est. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qui est de ne pas faire d'œuvre d'imaginaire en quelque sorte. C'est-à-dire que je décris des lieux. Mais je ne vais pas écrire une histoire, je ne vais pas écrire des personnages, je ne vais pas rentrer dans une histoire avec des filiations ou je sais quoi. Je vais plutôt essayer de dire ce qu'il y a sur ce lieu, ce qui m'inspire, comment je peux le vivre. Et alors donc, je l'ai fait une première fois avec des cartes que j'avais fait à la main, et puis je l'ai fait ensuite avec des cartes qu'on a travaillées avec les graphistes. Et il se trouve que c'est la seule aussi que j'ai déjà jouée à Kiasma. Il y a, je ne sais pas, 2-3 ans, et c'était au tout début, et les autres n'existaient pas à l'époque, et c'est vrai que depuis, l'idée de ces cartes était de les tirer de manière aléatoire. Donc la dernière fois que je l'ai joué à Kiasma, j'ai vraiment tiré toutes les cartes de manière aléatoire, et en fait, je trouvais que ça fragilisait par moments inutilement le processus, et que ça me mettait en danger par moments, et je me suis dit finalement... Je veux garder comme ça, je change à chaque fois les aura lieu, mais je les décide un peu à l'avance. Et donc cet après-midi, j'ai fait un nouveau principe que je n'ai jamais essayé, c'est que je vais faire 3 grands groupes de cartes et puis je vais un peu improviser à l'intérieur de ces 3 grands groupes qui forment un peu le aura lieu sur Conakry. Donc je vais les prendre. Alors je vais les prendre. Le premier groupe. Il va y avoir celle-là. 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 Le premier groupe, c'est le plus grand. Hein, donc il ne va pas rester grand-chose après. Celui-là. Celle-là. Celle-ci. Celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a celle-ci. Vous voyez qu'il en reste. J'ai un gros tas dans la main. Celle-là, non. Celle-là, oui. Celle-là aussi. On va dire qu'on s'arrête là. Voilà, donc j'ai un premier groupe. Je filmais ça depuis mon hôtel. En fait, la scène que vous allez voir, pour l'instant, je ne démarre pas le film, mais la scène que vous allez voir était filmée depuis un hôtel à Conakry. Et en fait, c'est la première fois dans ma vie, moi j'étais là pour faire un spectacle de théâtre, c'est la première fois que j'étais dans un hôtel en Afrique seul, parce que les autres membres de l'équipe n'étaient pas dans le même hôtel que moi. Et en fait, il y avait des prostituées dans la cour de l'hôtel, et moi j'étais très mal à l'aise avec ça. Et du coup, je photographiais des lézards. Donc la première carte, c'est un lézard photographié au bord de la piscine. Vous pouvez faire passer les cartes en silence ou les garder, c'est vous qui décidez. Près de l'endroit où j'étais, en fait, quand j'observais le paysage, il y avait un gros bateau qu'on va voir bientôt. Et puis, il y avait sur le côté gauche de très gros travaux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment une tentative de gagner sur la mer. C'est-à-dire qu'ils étaient en train... Là, l'image que je vais donner, c'est les Émirats arabes. Vous savez, ils ont construit de très grands polders qui, du ciel, donnent des formes de palmiers, etc. Là, c'était la version guinéenne, donc avec beaucoup moins de moyens. Ils emmenaient des tonnes et des tonnes de terre rouge dans la mer et ils poussaient avec les bulldozers pour essayer, comme ça, d'agrandir un peu le port. Peut-être pour dire où on est, la Guinée-Conakry est en Afrique de l'Ouest, donc c'est sur la côte africaine quand vous descendez depuis le détroit de Gibraltar assez longtemps. La spécificité de la ville de Conakry, c'est que c'est une très grande péninsule qui s'avance dans la mer, qui est très très droite comme ça, et en fait quand on vient de l'aéroport ou du reste de la Guinée, il y a une seule route qui rentre dans la péninsule, qui va au bout de la péninsule et qui fait demi-tour. Donc en fait, la ville de Conakry est juste cette route qui fait l'aller-retour. Après, il y a des petites routes et des petites choses, mais grosso modo, c'est vraiment un aller-retour. Et sur les bords, il y a une voie de chemin de fer et une autre petite péninsule qui est l'endroit depuis lequel je filme. Alors, je cherche une carte que j'ai envie de mettre maintenant. Que voit-on ? Alors ça, c'est une carte que j'avais faite à la création de la performance. Et quand j'ai retravaillé pour ici, je ne sais plus pourquoi j'ai fait cette carte « Que voit-on ?». Et donc, je me suis dit finalement, que voit-on dans un festival sur histoire-géographie aura lieu. Et je me suis dit que ce qui me tracassait dans cet aura lieu qu'on a créé, finalement, c'était de surinterpréter un lieu. C'était finalement que des fois, notamment quand il y a un passé colonial, etc., on arrive quelque part et on se met à se raconter des choses sur le lieu, dans ce qu'on voit, et à quelque part triper, mais on ne sait pas si ce qu'on est en train de se raconter est complètement lié à quelque chose de réel ou est complètement fantasmatique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois au moment où je le vois ? Est-ce que le récit que je m'en fais est réel ? Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais partir d'un exemple. Alors, par exemple, ici, on a des vautours sur un tas d'ordures. Ici, on a la même image de vautours sur un tas d'ordures avec un gros nom marqué dessus. Ici, on a des chiens qui sont sur le même tas d'ordures. Et finalement, une des questions que je me suis posée, c'était... lié à cette question de la surinterprétation du regard, c'était est-ce que... Parce que ça, c'est en plein centre de Conakry, il y a une très belle maison. Moi, je faisais ça à pied certains jours pour aller au théâtre. Il y a une très belle maison. Devant cette maison, il y a un très gros tas d'ordures. Et sur ce gros tas d'ordures, on a des aigrettes, donc des très beaux oiseaux blancs, des chiens et des vautours. Et la question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce que la présence dans le centre de Conakry de vautours sur des tas d'ordures est lié à la colonisation, ou bien est-ce que c'est comme la latérite, une donnée tropicale ? Alors là, il faut expliquer les termes. Donc la latérite, il y a deux cartes. Je les cherche. En voilà une. Tiens. Alors là, c'est une carte où on voit un plan de bateau. On va envoyer la vidéo. Tiens. Et en fait, vous allez voir dans la vidéo, il y a un très gros bateau. Et à côté de ce très gros bateau, il y a une très grande route en latérite. Et en fait, moi, je me demandais finalement, est-ce que en Afrique, qu'est-ce que c'est que ce fait que les routes sont toujours rouges ? C'est-à-dire que quand on se promène en Afrique, les routes sont rouges, la terre est rouge. Et moi, qui m'intéresse un peu à la géologie, j'y connaissais pas grand-chose, et je me disais, Est-ce que c'est une matière, un type de terre, un type de minerai qui n'est sorti que là, finalement ? Et en fait, non, la latérite, qui est cette terre très rouge qui fait les routes et qui fait la terre, elle est le résultat de plusieurs sortes de pierres ou de sols qui ont été dégradés et oxydés et qui ont donné la latérite. Donc en fait, c'est ça une donnée tropicale, c'est-à-dire que c'est une terre qui est de cette couleur parce qu'elle subit le lessivage des pluies des tropiques et le soleil extrêmement fort. C'est du fer ou de la bauxite qui sont oxydés. Donc par exemple, ça s'appelle une donnée tropicale. Donc dans ce cas-là, les vautours seraient dans le centre de Conakry parce que d'une manière générale, dans les centres-villes des tropiques, on pourrait avoir des vautours. L'autre interprétation qu'on peut faire, c'est que c'est lié à l'extrême pauvreté de Conakry. Voilà un bulletin de vote du référendum de 1958. En fait, en 1958, au moment des indépendances, le général de Gaulle a demandé à la plupart des pays qui voulaient se séparer de la France s'ils voulaient bien rester dans une communauté française ou s'ils voulaient complètement se séparer. La plupart des pays ont dit « on va rester dans la communauté française ». Et la Guinée est le seul qui a dit « on sort de la communauté française, on ne veut plus être du tout sous le joug du général de Gaulle, on s'en va ». Le général de Gaulle, qui avait une sorte de fierté, l'a assez mal pris et il a rompu toutes les relations avec la Guinée-Conakry. Et j'étais un jour dans un taxi, un jour où je n'allais pas à pied au théâtre, j'ai pris un taxi, et le chauffeur était assez bavard, et il me disait « Ah, les Blancs !» parce qu'il était assez direct, il me dit « Les Blancs, moi je suis pour le retour des Blancs. » Il faut savoir que depuis 3-4 ans, il y a à nouveau du commerce avec la Guinée, un président qui est plus économie libérale, etc. Et ce chauffeur de taxi me disait « On sait que de toute façon, si on a des échanges avec vous, vous allez nous voler. Mais on a tellement souffert d'avoir zéro échange et d'avoir rien à échanger et de ne pas pouvoir prendre ne serait-ce que les miettes qu'on préfère que vous nous voliez que l'inverse. » Et ça, du coup, c'est une donnée extrêmement importante quand on vit à Conakry, c'est qu'ils ont eu pendant 30 ans, 40 ans, extrêmement peu de moyens jusqu'à la réouverture et que finalement, c'était très étonnant d'avoir ce gars qui disait on sait que vous êtes des voleurs, mais on préfère avoir des échanges avec vous que rester isolé. Et quand on passe dans le centre de Conakry, il y a, à côté de cette décharge avec des vautours dessus, il y a de très très grands immeubles qui étaient en fait des hangars qui servaient au commerce avec la France jusqu'aux années 50 et qui depuis sont en délabrement complet et sont complètement abandonnés. Là, il y a une autre carte latérite. Alors, là, c'est une carte avec des pélicans. Donc, c'est juste un pélican. Il y avait près de, sur la gauche du paysage de mon hôtel, un groupe de pélicans que je voyais d'assez loin. Et là, ça va rejoindre d'autres aura lieu que j'ai fait cette semaine. J'ai voulu m'en approcher. J'ai marché sur la zone où ils étaient en train de remblayer des tonnes de terre rouge de latérite. Et à ce moment-là, les pélicans s'en allaient, mais de très très loin. Enfin, il n'y avait vraiment pas besoin de s'approcher très près. Ils s'enfuyaient. Et finalement, ça rejoint une question qui m'a toujours traversée. C'est la sensation que ce n'est pas normal que les animaux me fuient. C'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose qui me paraît déstabilisant, un peu triste, un peu anormal, dans le fait de ne pas pouvoir m'asseoir à côté des pélicans et de simplement pouvoir passer un moment avec les animaux. Je comprends très bien en fait les raisons qui les poussent à s'enfuir intellectuellement, mais comme ça, le premier geste, c'est d'avoir envie d'être dans la même communauté et de pouvoir s'asseoir à côté d'eux. Et voilà, c'est peut-être une chose qui m'a marqué. Là, c'est une photo beaucoup moins drôle. C'est des pendus sur le pont du centre de Conakry. Je ne vais pas faire un grand moment sur l'histoire de Conakry. Simplement, ils ont eu un dictateur très dur qui s'appelait Sékou Touré. Hakim Ba, qui est un jeune auteur de théâtre que j'ai rencontré lors de ce séjour pour la première fois à Conakry, a écrit une pièce qui s'appelle « Le cadavre dans l'œil » et qui décrit très très bien la dictature de Sékou Touré, le camp Boireau, qui était un endroit assez horrible, et les pendaisons qui avaient lieu en plein centre dans Conakry. Voilà. Deux dernières cartes sur cette première partie. Peut-être celle-là, d'abord, qui est juste un bord de voie ferrée. La voie ferrée allait jusqu'au bout de la péninsule, à l'époque où il y avait beaucoup de commerce. Elle continue à fonctionner. Et cette voie ferrée est l'endroit où il y a les plus pauvres, les gens les plus pauvres. Et du coup, quand je partais de ma petite péninsule à moi sur la péninsule, je traversais les rails. Et c'était vraiment là, il faut voir que c'est des endroits où c'est des pays très, très pauvres, avec ce qu'on n'appelle pas des bidonvilles là-bas, mais qui sont des cabanes de planches au bord du train, qui est vraiment un endroit horrible parce qu'il n'en passe que trois par jour, mais alors ça vibre, ça fait... c'est un très vieux train. Ici, c'est une caravane. Alors, c'est une caravane parce que la caravane abandonnée me faisait penser à ce bateau que je filmais. C'est-à-dire que je me disais, dans les deux cas, il y a une espèce de nostalgie parce que ce bateau ne marche plus, il ne vogue plus. Et je me disais, c'est finalement ces bateaux, comme ces caravanes, sont des choses qui étaient faites pour le mouvement, qui étaient faites pour le voyage. Et d'un coup, on voit un bateau qui ne bouge plus, qui rouille tranquillement dans un port. On voit une caravane abandonnée. Et c'est à la fois une espèce de nostalgie d'un voyage qui n'a plus lieu. Et en même temps un terrain de jeu, quelque part, puisque cet endroit qui était destiné à voyager devient un endroit où tout est possible, puisque sa fonction première a disparu. On peut s'amuser. Alors, je vais prendre un deuxième set de cartes. Que je me trompe pas. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça m'arrange pas. En fait, je vais faire ça, celui-là, et peut-être... C'est bon. Alors, ce deuxième set de cartes, on va commencer... Vous voyez, sur cette image, il y a ce singe qui est attaché. Et finalement, ça rejoint la question des pélicans. C'est que je me disais, qu'est-ce que ça ferait d'être attaché sur le pont à côté de ce singe ? Qu'est-ce que je pourrais vivre comme expérience à côté de ce singe ? Qu'est-ce qui pourrait être un moment à partager ? Qu'est-ce qu'on partagerait ? Qu'est-ce qu'on peut vivre attaché sur le pont de ce bateau ? Et finalement, c'était aussi la question de l'imagination. Qu'est-ce que je peux imaginer de ce bateau ? Et qu'est-ce que le singe peut imaginer ? Comme je vous ai dit au début, surtout dans cet aura-lieu, comment écrire des histoires sans avoir d'imagination, sans mettre d'imagination dans l'histoire ? Et là, je suis reparti d'assez loin, je suis reparti de Gilles Deleuze. Et c'est une carte où il y a marqué « A » comme animal. C'est très connu, l'abécédaire de Deleuze. Et Deleuze, un des animaux qui le fascine, c'est la tique. Alors, je vais vous la faire rapide. La tique le fascine parce que la tique a besoin que de trois stimuli pour faire son monde et construire sa vie. Et c'est-à-dire que la tique va monter dans un arbre parce qu'elle va voir de la lumière. Elle va attendre parfois des années, voire 10 ans, je crois, pour la tique qu'on a vue le plus longtemps sans bouger. Et on peut lui faire des stimuli extraordinaires. On peut lui faire un air magnifique passé à la radio. On peut amener un concert de rock. On peut lui présenter des tableaux magnifiques. Elle ne bougera pas. Par contre, il y a une odeur précise qui est l'odeur de la sueur. Si elle sent ça, elle se laisse tomber de la branche et elle tombe sur l'animal. Elle attend ce signal très précis. Et le troisième signal, c'est un endroit où il y a moins de peau, où elle va aller s'enfoncer pour piquer. Deleuze dit, voilà, la tique est formidable. Alors, ça vient d'un scientifique qui s'appelait Rick Skull. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la tique a un monde à partir de 3 stimuli. Et finalement... Une des questions que je me posais, c'est comment on fait pour petit à petit comprendre le nombre de stimuli qui agissent sur nous. C'est-à-dire que là, on part du plus petit nombre de stimuli, et qu'est-ce qui nous agite ? Combien il y a de stimuli de départ ? Et alors, je suis tombé sur une étude qui concerne le goéland argenté. Alors, je n'ai pas de souvenir de goéland argenté à Conakry, mais par contre, j'ai une très belle tête de goéland argenté avec moi. Je vais attraper ça. Et en fait, il y a eu une étude très poussée dans les années... Il y a un bouton, je ne sais pas la date, en fait, après les années 50. Quelqu'un qui s'appelait Tim Bergen a étudié les stimuli qui font agir un bébé goéland. Et en fait, on s'est rendu compte que le bébé goéland réagissait de manière innée, donc sans aucun apprentissage, à un certain nombre de signaux qui faisaient qu'il ouvrait le bec et qu'il se nourrissait. Et ces signaux étaient liés à la tête, de ses parents. Et en fait, il réagissait notamment à la couleur du bec. C'est-à-dire que si on enlève la couleur, il ne réagit plus de la même manière, de manière innée. Si on lui présente un bec qui n'est pas coloré et qui n'est pas dans la bonne position, le bébé goéland ne reconnaît pas. Ça ne lui est pas naturel. Donc en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement, d'une direction et d'une couleur qui, de manière innée, oriente sa perception du monde et le fait ouvrir la bouche ou pas, agir ou pas. Donc vous voyez que petit à petit, on progresse depuis notre tic, jusqu'à un être plus complexe qu'est le goéland. Et du coup, la question suivante, ça serait, comment on arriverait à comprendre des stimuli innés chez nous ? Vous savez très bien que c'est évidemment des questions extrêmement complexes. Comment on arriverait à avoir un être qui n'aurait peut-être pas d'imagination, par exemple, qui était une de mes questions centrales. Alors, en me posant à côté du singe, pour m'aider un peu, je me suis dit, je vais essayer de chercher des artistes qui pourraient nourrir ma réflexion. Et en me posant à côté du singe, je me dis, tiens, si je me pose à côté d'un animal, bon, bien sûr, ça pourrait être Joseph Beuys. Alors, Joseph Beuys, c'est quelqu'un qui a traversé les États-Unis sans toucher le sol pour qu'on l'emmène, je vous la fais très rapide hein, aussi, pour qu'on l'emmène dans la cage d'un coyote qui représentait les Indiens, etc. Mais concrètement, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est fait emmener dans la cage d'un coyote où il a passé 3 jours en présence du coyote. Donc voilà, on se dit, là, il y a quelqu'un qui fréquente les animaux, d'autant plus qu'une autre forme de Joseph Beuys, c'est qu'il a fait des discours à un lièvre mort. Il a expliqué l'art à un lièvre mort. C'est des œuvres très connues. Et finalement, ça ne me parlait pas complètement de mon sujet. Et donc, je me suis dit, je vais plutôt prendre Matthew Barney, qui est un artiste qui est encore vivant, parce que Matthew Barney a commencé un de ses grands cycles d'œuvres. Il l'a commencé, ça s'appelle « Drawing Restraint », et ça veut dire qu'il faisait des peintures attachées. En fait, il s'est attaché au plafond d'une galerie, et c'est dans cette contrainte qu'il a commencé à dessiner. Et l'œuvre de Matthew Barney a été extrêmement loin, puisqu'au bout, il a été jusque « Drawing Restraint 9 », qui est un très grand film, et que ça me plaisait bien, parce que « Drawing Restraint 9 » se passe entièrement sur un gros bateau, en l'occurrence un baleinier. Et bon, après, je vous passe les détails, il finit par découper sa femme de l'époque, qui était la chanteuse Björk, dans une baignoire. Bon. Mais le début m'intéressait beaucoup, c'était qu'est-ce que c'est que dessiner contraint, et finalement, peut-être qu'en étant contraint, on comprend mieux nos stimuli. Et donc finalement, qu'est-ce qu'est en train de vivre ce singe entre les stimuli qui sont ce que lui voudrait vivre, la manière dont il voudrait sentir les choses, et comment ces stimuli sont peut-être révélés aussi par le fait d'être contraint, attaché à cette corde. Donc du coup, ça donnerait une œuvre, je ne sais pas, il faudrait peut-être s'attacher à côté du singe, lui donner un crayon, et à deux, sauter dans le bateau au bout de nos cordes et essayer de dessiner tant qu'on peut sur le bateau. Et en se posant cette question, que moi, j'arrive à imaginer l'intérieur du bateau, mais que sans doute, le singe, lui, n'imagine pas l'intérieur du bateau. Ça s'appellerait « Drawing Monkey Restraint ». Alors, il y a une dernière carte dans cette série qui rejoint « Drawing Monkey Restraint ». C'est encore Deleuze, parce que j'essaie d'avoir des petites fidélités dans certains oralieux, donc aujourd'hui, c'est Deleuze. Et il dit que les animaux, pour aller plus loin, certains animaux marquent leur territoire et que le territoire, c'est des postures, des couleurs et des chants. Et en fait, il compare ça quelque part à une perception de l'art. C'est-à-dire que finalement, dans cette question du stimuli, de ce qui nous fait agir dans la vie, il dit on remarque un territoire, l'animal marque son territoire par une manière de se poster, de faire des postures, les couleurs de ses ailes, de son bec ou de sa queue et ses chants. Et finalement, on a encore cette question de jusqu'où c'est un stimulus et un territoire, à quel moment ça devient une perception artistique ou quoi, mais ça crée un rapport à l'espace qui est joué par des mouvements, des couleurs, et qui est finalement pas si loin d'une histoire de l'art. Voilà une petit bec de pélican pour Luce. On prend la dernière série de cartes. Finalement, toujours... Ça s'active. Toujours en imaginant qu'on se positionne à côté du singe, et je restais à chercher cette idée, même si on est tous les deux en train de dessiner sur le bateau, je me disais, ce qui peut manquer peut-être, c'est ce troisième être qui serait un être qui me ressemblerait davantage qu'à un singe, mais qui n'aurait pas d'imagination. J'avais l'impression que cet être me manquait. Et là, je me suis dit, je vais faire un peu des recherches sur ce que c'est qu'être un homme. Et c'est lié évidemment au fait qu'on est sur le continent africain. Les sujets que je vais aborder sont scientifiques, donc il y a toujours possible de les remettre en question. Donc je vais donner des dominantes. L'homme européen, l'homme mondial tel qu'il est aujourd'hui, vient d'être qui était en Afrique. On peut complexifier parce qu'il y en a qui ont disparu. Ça s'appelle l'évolution buissonnante, c'est-à-dire qu'il y a eu des buissons d'hommes qui venaient sans doute d'ailleurs, mais ceux que nous sommes aujourd'hui descendent d'Afrique. En fait, il y a des techniques pour, par exemple, dans l'ADN, on sait qu'il y a une Ève mitochondriale et un Adam Y. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, les mitochondries qui sont un certain type d'ADN dans nos cellules ne se transmettent que de femme en femme. Et en fait, pour remonter à une femme qui a donné... Parce que si vous voulez, il faut imaginer une grande fresque. Et en fait, petit à petit, des femmes sont éliminées parce qu'elles ont des hommes comme enfants. Donc en fait, les gens croisent d'autres choses que les mitochondries. Notre ADN se croise. Mais par contre, les mitochondries, dès qu'une femme n'a pas de fille, eh ben, c'est celle de l'autre fille qui passe. Et finalement, en fait, c'est le même ADN mitochondrial qu'on a tous et qui vient d'une seule femme il y a 140 000 ans en Afrique. Ça, aujourd'hui, c'est à peu près admis. On a voulu faire la même chose avec les hommes en faisant la question de l'Adam Y, puisqu'on a le chromosome Y ne passe que d'homme en homme. Et par exemple, il y a eu des grosses controverses parce qu'ils l'ont daté à 140 000 ans, puis après, ils ont trouvé quelqu'un qui ne descendait pas de cet Adam Y. Malgré tout, a priori, si on va jusqu'à 300 000 ans, on arrive à un Adam Y qui aurait... Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on est dans la Bible. En réalité, ce ne sont pas deux personnes qui étaient seules. Il y avait des grandes populations qui ont croisé d'autres choses. Mais ces choses-là, qui ne se transmettent que d'une certaine manière, sont restées les mêmes et se sont appauvries quelque part. L'ADN mitochondrial ne vient que d'une femme. Tout ça pour dire qu'on est en Afrique et qu'il y a une question de l'origine de l'homme. Et là... Je vais vous faire... Alors, on peut donner cette petite photo du rift. Vous savez qu'il y a la question des fossiles qu'on trouve. Alors, en fait, il y a le fait qu'on trouve beaucoup de fossiles en Afrique, c'est aussi qu'ils ont été mieux conservés. Mais il faut savoir qu'il y en a ailleurs. Il y avait certainement des endroits où il y avait aussi des bassins humains et il y avait moins de monde. Moi, ce qui m'a intéressé dans ma recherche d'un être intermédiaire, c'était finalement de se dire comment on en est arrivé là, finalement, à ce que je m'assoie à côté du singe. Et j'ai recherché un peu l'arbre des espèces. Alors là, vous allez voir, c'est un peu tout le temps les mêmes mots, mais je ne l'ai pas appris par cœur. Donc. En fait, ça s'appelle, il y a une grande famille qui s'appelle les Hominoidea. Et dans cette grande famille des Hominoidea, il y a une famille... En fait, vous allez voir, petit à petit, on sépare certains singes qui nous quittent et on est avec des familles de singes qui se rapprochent de nous. Donc, dans les Hominoidea, on a les Ilobatidae et les Hominidae. Les Ilobatidae donc quittent la branche, deviennent une branche à part, et c'est les gibbons, donc des singes assez avec des grands bras assez sportifs. Dans les Hominidae, on a les Ponginae et les Homininae. Alors les Ponginae, c'est les orang-outangs qui se séparent de nous, et puis on a une nouvelle famille d'Homininae dans laquelle on a les Gorillini et les Hominini. Gorillini, je pense qu'on comprend, c'est les gorilles. On se sépare comme ça. Dans les Hominini, on a les Panina et les Hominina. Panina, ce sont les chimpanzés et les bonobos. Et on arrive aux Hominina. Et dans Hominina, il y a l'Australopithèque et tous les espèces du genre Homo. Il se trouve qu'aujourd'hui, ont disparu tous les Australopithèques et toutes les autres espèces du genre Homo. Donc finalement, c'est la réduction de toute cette branche à Homo sapiens. Donc mon idée de départ n'était pas si absurde. Il aurait pu exister des homos qui n'auraient pas été sapiens, mais qui auraient été autre chose qu'un singe et qui auraient été en même temps que nous, vivant à notre époque. En fait, il y a quelques années, il y a eu une grande dispute à propos de l'homme de Flores, qui est une petite île d'Indonésie. Ils sont tout petits, ils ont des tout petits crânes, et on s'est dit longtemps, c'est un homme abîmé. En fait, c'est un homo sapiens, mais qui a une maladie, et c'est sans doute pas une espèce à part. On est à peu près sûr aujourd'hui que l'homme de Flores est un genre d'homo à part. C'est-à-dire que c'était Homo floresiensis. S'il avait continué à vivre sur son île, on aurait aujourd'hui Homo sapiens, et on aurait pu rencontrer Homo floresiensis et voir ce qu'on avait à partager d'étrange. Le fait est qu'il ne reste que Homo sapiens, et le plus proche qui reste, ce sont les chimpanzés et les bonobos. Quelqu'un est intéressé par cet arbre incroyable. Qu'est-ce que ça pose comme question ? Ça pose cette question de cet être entre nous. Et d'un coup, j'ai découvert un concept de robotique qui s'appelle la vallée dérangeante. C'est-à-dire que finalement, en robotique, on s'est rendu compte que plus un robot ressemblait à l'humain, il y a tout un moment où ça va, il nous ressemble mais pas trop, donc on est à l'aise. Et ce qui nous met mal à l'aise, c'est ce moment où le robot nous ressemble un peu trop, mais ne se comporte pas comme nous. Et d'un coup, il y a une vallée dans laquelle on a tous ces êtres intermédiaires qui nous ressemblent un peu trop, mais qui ne sont pas exactement comme nous. Et finalement, évidemment, cette vallée, selon les gens, bouge beaucoup, parce qu'on peut être dérangé par des gens du genre Homo sapiens, il n'y a aucun problème. Mais ça, on ne le met pas officiellement dans la vallée dérangeante. La vallée dérangeante qui, pour le coup, n'est pas un concept 100% scientifique, qui est un entre-deux. C'est-à-dire qu'on sait que ça marche, mais on sait aussi que par moments, ça ne marche pas. Et du coup, je cherchais des êtres à mettre dans cette vallée dérangeante. Et alors, quand on fait des recherches, c'est assez drôle, il y a Casimir, parce que c'est un être un peu intermédiaire. Dans Conakry, pendant que je me promenais, il y avait un mur très, très grand, et il y avait écrit en 4 mètres par 2, « Revenant », en très gros, « bientôt », en rouge. Alors, je vais vous donner cette carte. Alors, je me suis dit, tiens, c'est marrant, est-ce que c'est juste un post-it, genre « je reviens à la maison dans 5 minutes », ou est-ce que c'est le retour des revenants, c'est-à-dire des zombies. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant. Et le revenant, par exemple, est dans la vallée dérangeante, c'est-à-dire que c'est un être qui nous ressemble, mais qui n'a pas la même capacité cognitive. Et puis, en fait, j'ai pensé à un film qui m'avait beaucoup plu sur cette question de l'imagination, qui s'appelle Galaxy Quest. Alors, c'est un film très, très... dont on ne dit pas assez de bien, à mon avis. C'est un film où il y a Sigourney Weaver, comme dans beaucoup de films de SF un peu bizarres. Et alors, c'est une équipe qui a tourné en gros Star Trek pendant 30 ans. C'est la série Star Trek. Ils sont très célèbres, mais ça ne marche plus du tout. C'est un peu des has-been. Ils font des conventions un peu ringardes avec des fans qui s'agitent. Et un jour, des extraterrestres, qui sont des réels extraterrestres, qui sont en grand danger, ont vu toute la série et décident de kidnapper ces héros-là parce qu'ils pensent qu'ils peuvent les sauver. Et donc, ils descendent sur Terre, ils kidnappent l'équipe, ils leur disent « on vous a fabriqué le vaisseau que vous vouliez, et à partir de ce vaisseau, vous allez pouvoir nous sauver parce qu'on a vu que vous étiez vraiment très, très fort. » L'équipe n'ose pas trop dire qu'ils sont juste des acteurs. Ils se disent « il y a un malentendu, mais comment on va faire ?» Et en fait, on découvre au fur et à mesure de la série que ces extraterrestres incroyables qui sont capables de prendre forme humaine, qui ont été capables de regarder ce qu'ils appellent les documents historiques et de tout refaire le vaisseau qui fonctionne pour les héros de la série, etc., ils ont un seul problème, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la fiction. Et à un moment donné, c'est assez terrible parce que le méchant extraterrestre capture les gentils extraterrestres, le torture, et pour finir de l'achever, lui apprend, en gros, lui dénonce devant les humains que c'était de la science-fiction, que tout ça n'existe pas, et que ce n'est pas du tout des héros, mais que c'est des acteurs. Et ce personnage qui est ici est totalement en souffrance et ne comprend absolument pas de quoi il s'agit, la manière dont on l'a trompé, parce que pour lui, une œuvre de fiction n'existait pas. Donc je pense qu'il faudrait mettre sur ce bateau toute l'équipe de Galaxy Quest et que ça serait une bonne manière de terminer avec un être sans imagination. Je vous remercie.